Et ce que je voudrais maintenant aborder comme question, c'est la question du médium de la réflexion interprété comme pratique. Et je voudrais le faire à partir de la théorie de l'imagination chez Baudelaire et à partir d'une analyse de cette théorie de l'imagination qui me permet de dire qu'au fond, cette théorie de l'imagination qui, à mon avis, procède d'une lecture de Kant, du moins d'une lecture d'un livre où certainement l'esthétique de Kant était abordée, que cette théorie de l'imagination en fait reprend très largement la conception de l'opération du jugement chez Kant. Alors, l'imagination chez Baudelaire, et là je me réfère au texte qui s'appelle donc le Salon de 59, 1859, La Reine des Facultés. L'imagination pour Baudelaire, c'est une faculté de connaissance, c'est très important. C'est, dit-il, la reine du vrai. L'imagination est la reine du vrai et le possible est une des provinces du vrai. Elle est positivement apparentée avec l'infini. Et d'autre part, c'est une faculté morale, l'imagination. Il dit un petit peu plus loin. Enfin, l'imagination joue un rôle puissant dans la morale, car permettez-moi d'être jusque-là. Qu'est-ce que la vertu sans imagination? Autant dire la vertu sans la pitié, la vertu sans le ciel, quelque chose de dur, de cruel, de stérilisant, qui dans certains pays est devenu la bigoterie, et dans certains autres, le protestantisme. L'imagination, hein, je voudrais simplement le resituer dans un premier temps assez rapidement, c'est une faculté au sens où Kant parle de faculté, c'est-à-dire c'est une faculté de connaissance, hein, et c'est une faculté de connaissance qui est aussi une faculté morale, exactement comme chez Kant, hein, les facultés de connaissance sont aussi des facultés morales. Pour Baudelaire, ce qui va faire de Constantin Guy le peintre de la vie moderne, c'est précisément cette faculté cognitive et morale, cette imagination qui fait de lui plus qu'un artiste. Et je vous lis, ça c'est dans Le peintre de la vie moderne, hein, la présentation de Constantin Guy. Donc l'imagination est une faculté qui dépasse complètement, j'allais dire, simplement la production d'objets d'art. Voilà comment il le présente. Lorsque je le trouvais, donc ce Constantin Guy, je vis tout d'abord que je n'avais pas affaire précisément à un artiste, mais plutôt à un homme du monde. Entendez ici, je vous prie, le mot artiste dans un sens très restreint, et le mot homme du monde dans un sens très étendu. Homme du monde, c'est-à-dire homme du monde entier, homme qui comprend le monde et les raisons mystérieuses et légitimes de tous ses usages. Artiste, c'est-à-dire spécialiste, homme attaché à sa palette, comme le cerf à sa glèbe. Monsieur G n'aime pas être appelé artiste, n'a-t-il pas un peu raison? Il s'intéresse au monde entier, il veut savoir, comprendre, apprécier tout ce qui se passe à la surface de notre sphéroïde. L'artiste vit très peu, ou même pas du tout, dans le monde moral et politique. Celui qui habite dans le quartier Bréda ignore ce qui se passe dans le faubourg Saint-Germain. Sauf deux ou trois exceptions qu'il est inutile de nommer, la plupart des artistes sont, il faut bien le dire, des brutes très adroites, de pures manœuvres, des intelligences de village, des cervelles de hameau. Leur conversation forcément bornée à un cercle très étroit devient très vite insupportable à l'homme du monde, au citoyen spirituel de l'univers. Hein, un passage extrêmement drôle, extrêmement merveilleux, qui évidemment anticipe sur les déclarations de Marcel Duchamp, hein, sur aussi bête qu'un peintre, hein, le peintre attaché à l'olfaction, etc. Bon. Évidemment, Baudelaire reprend à son compte, hein, ses tirs à boulet rouge sur l'artiste, entendu évidemment comme homme de métier, tout simplement. L'imagination, c'est une faculté cognitive et morale qui hausse, hein, Constantin Guy, chez qui elle est primordiale, et chez qui elle conduit toute la production artistique, bien au-dessus de l'artiste entendu au sens restreint, hein. Donc l'imagination, c'est ce qui va élever, nous dit Baudelaire, l'art au-dessus de la reproduction, et ce qui confère à l'art une dimension de connaissance du possible. Et en ce sens, une possibilité de suspendre ce qu'on appelle le réel, et qui, au fond, fait du réel simplement un mode d'accès à ce qui pourrait être. Par ailleurs, bon, je laisse parce que je voudrais essayer de faire une espèce de petit entonnoir pour aller à ce qui m'intéresse, c'est-à-dire à cette question de la médiation. Par ailleurs, l'imagination, c'est une faculté, nous dit Baudelaire, médiatrice, qui sert de révélateur, de révélatrice aux autres facultés, et qui, d'une certaine façon, doit se composer avec les autres facultés pour qu'elles apparaissent. Ou plutôt, les autres facultés doivent se composer avec l'imagination pour pouvoir s'exprimer pleinement. Donc l'imagination, c'est une sorte de filtre qui permet aux autres facultés de créer non seulement des objets, mais de créer des mondes, dit Baudelaire, de créer non seulement des fragments, des images, des objets, des choses, etc., mais de créer des mondes. L'imagination, c'est ce qui fait filtre à l'art pour qu'il se donne, porté par un monde, d'une part, et pour que ce qu'il nous donne se révèle à travers un monde. Et ce terme de monde, évidemment, c'est ce qui va servir c'est ce qui va ici désigner ce que j'appelle le médium. Chez Baudelaire, ce médium qu'est l'imagination, cette faculté médiatrice, eh bien, est représentée à travers la métaphore de la lumière. Page 627, donc dans l'arène des facultés, vous trouvez cette expression « Je veux illuminer les choses avec mon esprit et en projeter le reflet sur les autres esprits. » Donc, l'imagination, qui est cette faculté d'illumination, est cette espèce de faisceau lumineux qui donne à voir, donc le médium de la vision, et qui, par ailleurs, projette le reflet de cette vision sur les autres esprits. Donc on est vraiment dans la médiation, dans le filtre et la médiation. L'imagination, est décrite comme une fonction alors supplétive, et je vais vous donner cette phrase qui se trouve page 627, donc dans la Reine des facultés toujours, qui nous dit voilà, tout l'univers visible n'est qu'un, ce que je vous ai déjà cité d'ailleurs tout à l'heure, tout l'univers visible n'est qu'un magasin d'images et de signes auquel l'imagination donnera une place et une valeur relative. C'est une espèce de pâture que l'imagination doit digérer et transformer. Donc c'est une espèce de suc. Et qu'est-ce que je voulais vous lire encore? Bon, c'est à peu près tout. Mais, à la différence de Kant, vous souvenez que pour Kant, le médium de la réflexion, c'est une forme. Une forme, une et indéterminée, qui est en fait donnée directement dans la nature. Le ciel étoilé, voilà, non, par exemple. Tandis que, pour Baudelaire, ce médium, il doit être produit. Et cette production suppose une faculté particulière, une faculté qui fabrique artificiellement le milieu qui va articuler la composition. Une faculté qui, au fond, médiatise les représentations et qui les articule en monde. Cette faculté, comme l'imagination chez Kant, elle relève bien de la synthèse, on est d'accord. Mais, et elle relève bien de la capacité à subsumer le divers sous l'unité de la représentation. Mais, en revanche, cette opération de subsomption-synthèse, elle n'a rien d'automatique, comme c'était le cas chez Kant. Elle devient un art, elle devient une techné, elle devient même, dans le vocabulaire de Baudelaire, elle devient une méthode. C'est-à-dire que cette imagination, qui est le médium de la réflexion, est en fait une technique. Elle suppose un type d'exercice de l'art, et cet exercice de l'art, va être décrit par Baudelaire à propos de Delacroix. Une méthode, alors, qui va décrire à deux reprises, enfin pas à deux reprises, il y a une page entière qui lui est consacrée. Alors, c'est intéressant parce qu'il lie cette technique à la vitesse. Il dit qu'il faut que l'exécution soit très rapide. Un peu plus tard, il fait une description très intéressante. Hein. En fait, ça a à voir avec une sorte de blitz, hein. Cette opération d'imagination, cette opération de synthèse-subsomption, cette méthode, cette technique. Et il la donne, c'est très intéressant, à propos de deux peintres, hein, qui sont Paul Delaroche et Horace Vernet. Et il va décrire ce que c'est que cette méthode. Un bon tableau, fidèle et égal au rêve qu'il a enfanté, doit être produit comme un monde. De même que la création telle que nous la voyons est le résultat de plusieurs créations dont les précédentes sont toujours complétées par la suivante, ainsi un tableau conduit harmoniquement consiste en une série de tableaux superposés, chaque nouvelle couche donnant au rêve plus de réalité et le faisant monter d'un degré vers la perfection. Donc on a là l'idée de la montée des couches, hein, dans la peinture. Tout au contraire, je me rappelle avoir vu dans les ateliers de Paul Delaroche et d'Horace Vernet de vastes tableaux, non pas ébauchés mais commencés, c'est-à-dire absolument finis dans de certaines parties, pendant que certaines autres n'étaient encore indiquées que par un contour noir ou blanc. On pourrait comparer ce genre d'ouvrage à un travail purement manuel qui doit couvrir une certaine quantité d'espace en un temps déterminé ou à une longue route divisé en un grand nombre d'étapes. C'est vraiment intéressant parce que là, on a le modèle de la division du travail. Quand une étape est faite, elle n'est plus à faire. Et quand toute la route est parcourue, l'artiste est délivré de son tableau. Tous ces préceptes sont évidemment modifiés plus ou moins par le tempérament varié des artistes. Cependant, je suis convaincu que c'est là la méthode la plus sûre pour les imaginations riches. Alors, ce que Baudelaire voit dans ces tableaux, dont certaines parties n'existent pas et d'autres sont entièrement terminées, ce qu'il voit derrière, évidemment, c'est qu'il y a une totalité de la conception, hein, qui fait qu'effectivement, l'artiste peut travailler ce petit bout de tableau totalement, le finir totalement, et laisser le reste en plan, hein, et faire finalement case par case, parce que, hein, le tableau est là. D'une certaine façon, l'imagination, le blitz de l'imagination, a déjà dressé invisiblement une grille qui fait qu'il va travailler par fragments, mais que derrière ces fragments, il y a le médium, hein, qui déjà a tout, hein, a tout construit. Et il dit un peu plus loin, il a cette expression, hein, qui est intéressante, il nous dit que c'est une méthode logique. Alors, je ne sais pas si j'ai noté, hein, l'imagination est une méthode, et il dit un tout petit peu plus loin, c'est une méthode logique, alors... bon, je suis désolée, je... Voilà. Dans une pareille méthode, qui est essentiellement logique. Et puis continue, tous les personnages, leurs dispositions, etc., doit servir à illuminer l'idée génératrice et porter encore sa couleur originelle, sa livrée, pour ainsi dire. Hein, mais ce qui est important, c'est dans une pareille méthode qui est essentiellement logique. Hein, c'est-à-dire qu'au fond, méthode de l'imagination, cette technique, hein, n'a strictement rien à voir avec le métier et tout à voir avec la connaissance. Hein, c'est ça qui est important. Et alors, si on veut maintenant approfondir cette méthode, il faut se pencher sur le texte sur Constantin Guy qui va beaucoup plus loin dans la description extrêmement empirique, hein, et extrêmement à la fois empirique et utopique, mais enfin extrêmement en tout cas précise, méticuleuse de la manière dont la pratique artistique procède. Hein. Et notamment, Baudelaire précise le rapport de la méthode avec la vitesse et la temporalité. Et d'autre part, avec la répétition. Il suffit de lire pour ça un passage hyper célèbre dont je crois, là je soulignais à quel point il y avait une idée de la division du travail, hein, cette route, hein, qui est faite par bout, hein. Un peu comme on fait une autoroute, et il y a dans le peintre de la vie moderne, dans la description de la manière qu'a Constantin Guil travaillé, un passage célèbre dont, à mon avis, on n'a pas saisi tout à fait encore la dimension extrêmement technique. Hein. Voilà comment il le décrit là sous le. Alors, voilà, sous la figure de l'observateur. L'observateur est un prince qui jouit partout de son incognito. L'amateur de la vie fait du monde sa famille, comme l'amateur du beau sexe compose sa famille de toutes les beautés trouvées, trouvables et introuvables, comme l'amateur de tableaux vit dans une société enchantée de rêves peints sur toile. Ainsi, l'amoureux de la vie universelle entre dans la foule comme dans un immense réservoir d'électricité. On peut aussi le comparer, lui, à un miroir aussi immense que cette foule, un kaléidoscope doué de conscience qui, à chacun de ses mouvements, représente la vie multiple et la grâce mouvante de tous les éléments de la vie. C'est un moi insatiable de non-moi qui, à chaque instant, le rend et l'exprime en image plus vivante que la vie elle-même, toujours instable et fugitive. Alors, dans toutes ces images, hein, qui sont absolument, qu'il faudrait reprendre évidemment une par une, celle que je trouve la plus impressionnante, c'est l'idée du regard qui est quasiment branché sur le réservoir d'électricité. Hein. Donc on a cette vision électrique, hein, tout simplement parce qu'elle est branchée sur le mouvement de la foule et sur la trépidation de la foule, hein, et cette vision électrique, qui est la vision de l'observateur, qui est la vision du peintre, elle se transpose en une seconde vision, dans un deuxième temps, elle se transpose en regard, on va dire, presque stroboscopique. Hein. Je vous lis le deuxième passage sur lequel je voudrais m'appuyer. Donc, toute la journée, Constantin Guy est là, branché, le regard absolument, on va dire, connecté à la trépidation de la foule, électrisé par cette trépidation de la vie de la foule. Et puis, le soir, hein, on arrive le soir, donc, voilà ce que dit Baudelaire. « Monsieur G restera le dernier partout où peut resplendir la lumière, retentir la poésie, fourmiller la vie, vibrer la musique, partout où une passion peut poser pour son œil, partout où l'homme naturel et l'homme de convention se montrent dans une beauté bizarre, partout où le soleil éclaire les joies rapides de l'animal dépravé. » Et un peu plus bas, où il décrit, le peintre rentre à la maison, « Maintenant, à l'heure où les autres dorment, celui-ci est penché sur sa table, dardant sur une feuille de papier le même regard qu'il attachait tout à l'heure sur les choses, s'escrimant avec son crayon, sa plume, son pinceau, faisant jaillir l'eau du verre au plafond, essuyant sa plume sur sa chemise, pressé, violent, actif, comme s'il craignait que les images ne lui échappent, querelleur, quoique seul, et se bousculant lui-même. Et les choses renaissent sur le papier, naturelles et plus que naturelles, belles et plus que belles, singulières et douées d'une vie enthousiaste comme l'âme de l'auteur. » Et là, évidemment, on a « belle et plus que belle »,« naturelle et plus que naturelle », respecter et violer. On a les deux modèles. Donc, ce qui est vraiment tout à fait passionnant, hein, c'est la façon dont vous avez cette transformation, hein, d'une vision électrisée, hein, par la trépidation de la foule, hein, qui est complètement animée par cette espèce d'électricité humaine, hein, et qui devient un geste lui-même électrique, hein, qui est décrit par Baudelaire. Hein, cette espèce de de nervosisme, hein, du peintre, hein, ce geste électrique qui va à la fois répéter la vision et en même temps réinventer la vision, hein, qui va au fond à la fois la respecter et la violer, hein. Et ce qui est intéressant, c'est évidemment le plus intéressant, c'est un mot, c'est lorsque Baudelaire dit dardant sur la feuille de papier le même regard qu'il attachait tout à l'heure sur les choses. Ça, c'est très très intéressant parce qu'au fond, hein, on a cette idée que, au fond, le regard électrifié par la foule qui se posait sur les choses, hein, est répété, articulé avec un autre organe, cette fois-ci qui est la main, hein, pour produire un nouveau résultat qui est ce naturel plus que naturel. Il y a au fond, et c'est ça qui est important, et c'est là où on est en fait plus proche de la photographie, indépendamment, hein, de la révolte de Baudelaire contre la photographie, c'est-à-dire qu'on a en fait la répétition d'une même vision, d'abord sur les choses ou les gens, et ensuite sur le papier. C'est-à-dire qu'on a la répétition d'une même activité, mais sur un nouveau support. C'est ça, le travail de l'artiste. Et vous voyez que là, Baudelaire est d'une précision totale. Ce qui est quand même très intéressant aussi dans la métaphore électrique, hein, c'est qu'on a ici la technique moderne. Hein, l'électricité, à l'époque de Baudelaire, c'est complètement neuf. Hein. Donc il y a vraiment l'idée hein, que ce travail artistique, hein, c'est un travail dont le moteur, c'est dans l'analogue, c'est le transformateur électrique. Hein. Et c'est en même temps la technique photographique, hein, où on passe d'un regard, j'allais dire, pas vierge, mais sans prothèse, hein, qui s'applique au monde, à un regard prothétique avec l'appareil, hein, qui s'appuie sur un autre support, qui est la surface qui est impressionnée par la lumière. Hein. Donc, ce que nous dit très bien ce texte hein, de Baudelaire, hein, c'est que la pratique de Constantinie, hein, cette pratique qui est portée par l'imagination et dont l'imagination est le principe, c'est une pratique dont le fondement, c'est la répétition. Et c'est la répétition constitutive de la pratique hein, qui est véritablement le médium de la réflexion. C'est par cette répétition, articulée cette fois, hein, c'est la répétition de la vision articulée par la main, mais qui pourra ensuite être articulée par X hein, prothèse, que se fait cette opération de détournement du respect en viol, hein, de l'affirmation en trahison, etc., etc. C'est-à-dire que ce qui fait qu'il y a une espèce de dérivation possible hein, au sein de la réflexion, c'est cette pratique hein, de répétition. Ce qui détourne, c'est la répétition de la pratique. Et au fond, c'est très intéressant parce qu'on voyait bien chez Kant, j'allais dire un peu sub specie aeternitatis, on voyait cette espèce d'opération du jugement qui suspendait et détournait. Mais on ne voyait pas du tout comment c'était fait. Au bout d'un, ce que suppose Kant, c'est que ça se fait tout seul. Il suffit de regarder le ciel et puis tout de suite, ça se passe. C'est-à-dire que ma représentation, au lieu de parler du ciel, elle parle de moi. Hein, tout ça se passait un peu comme ça dans une espèce de vertige étrange. Hein. Bon, parce qu'on se demandait bien pourquoi tout d'un coup, hein, pourquoi tout d'un coup, finalement, cette figure, au lieu de me donner l'idée que je vais connaître le ciel, elle se retourne vers moi et elle me donne à connaître, finalement, mon propre état à moi-même. Bon, Kant laissait ça, disons, en suspens, tout simplement parce que lui, il supposait que au fond, tout ça était porté par une finalité. Et que ce qu'il se donnait à connaître, c'était une finalité, finalement. Donc, cette finalité, elle n'a pas besoin de technique. Hein, elle se communique directement. Mais, lorsqu'on passe ça, évidemment, à l'optique baudelairienne, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit tout d'un coup que cette opération de détournement, eh bien, elle doit être opérée. Hein, que ce qu'il opère, hein, c'est une faculté. Mais que cette faculté, elle n'existerait pas sans une certaine méthode, sans une certaine méthode logique. Cette méthode logique, c'est une pratique, et cette pratique, c'est une pratique de répétition et de répétition détournement. C'est-à-dire que ce qu'on voit, ce que j'ai essayé de vous montrer progressivement, hein, c'est la manière dont, du jugement de Kant à l'imagination de Baudelaire, on a comme un effet d'incorporation hein, ou de matérialisation de la fonction médium de la réflexion, qui au départ, chez Kant, était assez abstraite finalement, et qui progressivement hein, se remplit de contenu hein, et qui devient ultimement chez Baudelaire quelque chose qui est de l'ordre d'une technique, hein, c'est-à-dire d'une pratique articulée, une technique. Hein. En tout cas, on pourrait dire, pour reprendre un terme grec, c'est une techné. Hein. C'est-à-dire qu'on voit au fond l'automatisme kantien du médium de la réflexion, de cette forme indéterminée, hein, et bien cet automatisme devient une techné. Hein. C'est ça au fond la modernité. Hein. C'est que des opérations qui étaient transcendantales, hein, c'est-à-dire qui se promenaient comme ça dans le ciel, hein, on ne savait pas très bien où ça se passait, hein, tout d'un coup, eh bien, on les voit s'incarner, hein, et on les voit tout d'un coup devenir des opérations pratiques, des opérations concrètes, des opérations techniques qui passent par des appareillages, et en l'occurrence, ces appareillages, ils sont déjà présents métaphoriquement par, un, la mention du réservoir électrique, et deux, l'idée d'une répétition qui, au fond, d'un même geste, mais sur un nouveau support, qui évoque quand même, en filigrane, la photographie. Donc, ce qui est intéressant dans le texte de Baudelaire, c'est qu'on voit comment on passe d'une conception facultataire du médium de la réflexion, implicitement, progressivement, hein, on le voit progressivement s'incorporer, se réaliser, pour devenir une technique, hein, et pour être pensée surtout comme une technique. Parce que moi, ce que je voudrais qu'on arrive, hein, ce à quoi on est en train d'arriver, c'est l'idée que ce médium de la réflexion, c'est la manière dont va se jouer le rapport entre pratique et technique dans l'art. Hein, c'est ça que je suis en train d'essayer de, de construire. Donc, si cette référence à Baudelaire est très importante, hein, c'est qu'au fond, Baudelaire nous permet de comprendre autrement que sur le mode d'automatisme facultataire, hein, ce qui donne à l'imagination ce pouvoir de médiation. Et ce qui donne à l'imagination ce pouvoir de médiation, c'est la répétition qui est constitutive de la pratique. Donc, non seulement l'imagination c'est une technique, mais cette technique repose sur la répétition et la transposition d'un même geste d'un support sur un autre support. Voilà. Donc, au fond, c'est très drôle parce que finalement, chez Kant, on avait cette idée d'une forme indéterminée qui, finalement, est détournée de son mouvement naturel qui la porterait à référer un objet et qui est appliquée à l'objet, et au sujet, je veux dire. Hein. Et donc, on avait déjà l'idée qu'on passe d'un support à un autre. Hein. C'est-à-dire qu'on avait l'idée d'une forme qui devrait avoir pour, disons, pour support, hein, pour référent un objet et qui, finalement, a pour référent le sujet. Hein. C'est-à-dire qu'on avait déjà cette opération de transposition chez Kant et qu'on la voit simplement, cette opération de transposition, c'est-à-dire se matérialiser. Hein. C'est ça qui est très beau, finalement. C'est qu'on voit, au fond, cette métaphysique qui retombe sur ses pieds, hein, avec Baudelaire. Donc, vous voyez, donc, finalement, c'est ça. Finalement, ce qu'il faut arriver à mon avis, à concevoir, c'est comment, même si on quitte la problématique stricto sensu kantienne du jugement de goût, on voit se conserver de manière tout à fait intacte, hein, dans son intégrité, l'opération qui est derrière le jugement esthétique, qui est cette suspension d'étournement, et on la voit s'incarner. On la voit se matérialiser, hein, à travers la technique. Donc finalement, si nous reprenons le jugement esthétique pour ce qu'il est chez Kant, à savoir un geste de reprise, suspension, détournement, retournement, détournement de retournement vers, hein, c'est-à-dire au fond un geste qui n'a d'autre contenu que la procession d'un état, on voit que le concept de ce geste est encore à l'œuvre dans ce que est toujours à l'œuvre dans ce que Baudelaire appelle l'imagination. Cette méthode donc de répétition d'une même opération de vision, d'abord simplement productrice d'images mentales, on va dire, et qui, s'articulant à la main, va reproduire ces images sous des conditions de production nouvelles, c'est-à-dire sous la forme de dessin. C'est ça qui est vraiment tout à fait curieux. Au fond, alors, pour conclure, première conclusion, l'idée que le jugement donc se manifeste bien dans la pratique artistique, hein, la pratique peut-elle être une instance du jugement, oui, pourquoi? Parce que le jugement est au travail dans la pratique, hein, déjà. Donc le jugement se manifeste dans la pratique artistique sous cette forme, hein, de la répétition, suspension, détournement, qui est en fait une reprise de la stratégie politique de Luc de Dandy, hein, qui, vous vous souvenez bien, application d'une technique de pouvoir sur autrui en technique de pouvoir sur soi. Hein, et au fond, ce qui fait la condition moderne du jugement, c'est que le jugement passe par une technique. C'est-à-dire que ce qui fait que le jugement, au fond, ce qui fait que le jugement a disparu du vocabulaire moderne, c'est tout simplement qu'il est passé dans la technique. C'est-à-dire que il sait, et que du coup, on pourrait dire qu'il a été absorbé par la technique. C'est-à-dire qu'on a oublié que dans l'opération technique, il y a une fonction de jugement, hein, qui est cryptée. Chez Kant, hein, le jugement, on peut dire, il s'opère à l'air libre, hein, directement. Hein, on passe du sentiment à la représentation et à l'appréhension de l'équilibre. Mais avec la modernité, ce qui se passe, c'est que cette transposition devient une opération de mémorisation, ce qui n'était pas vrai chez Kant. C'est-à-dire que chez Kant, on voit bien que au fond, il n'y a pas d'opération de mémorisation entre le sentiment de respect et l'appréhension de mon propre état. Il n'y a pas de mémoire. Tandis que dans l'imagination baudelairienne, on se rend compte que la synthèse de l'imagination, n'est possible que parce que la vision branchée sur ce grand réservoir d'électricité, il se transmet au sens vraiment littéral, c'est pour ça que la métaphore de l'électricité est importante, ce regard se transmet à son corps et à sa pensée, et une fois branché à la main, il va reproduire, d'une certaine façon, le mouvement de la vision. C'est-à-dire qu'au fond, il y a une espèce d'incorporation de la mémoire via l'électricité dans le corps et dans la pensée, et que cette incorporation de la mémoire, une fois qu'elle va être branchée à la prothèse de la main, eh bien, elle va reproduire les images mentales. C'est-à-dire qu'on a vraiment une machine, on a vraiment un robot pictural chez Baudelaire. C'est ça qui est assez joli. C'est-à-dire qu'on a cette vision, elle est branchée à ce réservoir, et puis à ce moment-là, cet œil branché à ce réservoir, du coup, il innerve à la fois le corps et la pensée. Il devient vraiment technique du corps. Et vous lui ajoutez une main mécanique, et à ce moment-là, il reproduit les innervations, les décharges électriques, et il reproduit l'image. Donc, on a en fait chez Baudelaire, derrière une description apparemment très spiritualisante, etc., on a en fait un petit robot qui travaille. On se rend compte qu'il n'y a pas chez Baudelaire de production de l'image sans cette mémoire du corps, sans cette mémoire du corps qui a été transmise par l'électricité. C'est pourquoi il est fondamental que le peintre Constantin Guy soit devenu un non-moi, comme il le dit. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit devenu un corps soumis aux décharges de la foule. Et c'est à condition d'être devenu cette espèce de surface d'épiderme parcourue par des décharges électriques qu'il peut devenir cette espèce de corps mémoriel, de corps mnésique qui est apte à reproduire ensuite l'image. Il faut qu'il devienne une espèce de matériau passif électrique, une matière à transmission. Et c'est ça qui est très impressionnant dans le texte de Baudelaire. Voilà. Donc, au fond, on pourrait dire que cette vision branchée sur ce grand réservoir va se transmettre à son corps et à sa pensée, va constituer dans ce corps et dans cette pensée une espèce de mémoire incorporée, et là, on est tout proche des techniques du corps de Mauss, et ensuite va se reproduire sous la forme d'images sur un papier. Voilà. Donc, on a un processus technique de transmission, de mémorisation-transmission. On peut dire que c'est là où, véritablement, la modernité va ajouter quelque chose au jugement chez Kant, c'est qu'avec la modernité et avec la technicisation du jugement, le jugement incorpore ou inclut une dimension de mémoire. Voilà, alors je voulais juste terminer par un petit passage drôle, qui était juste pour vous donner un petit éclairage sur ce que je voudrais qu'on réfléchisse par la suite, mais c'était vraiment pour me détendre et éventuellement vous détendre. C'est parce qu'il y a une pièce de Duchamp que j'aime beaucoup, qui n'a jamais été faite. Je l'aime d'autant plus qu'elle n'existe pas, qu'elle n'a jamais existé. C'est une pièce qui s'appelle Pornit, où on voit, c'est au fond exactement ce que je viens de vous décrire. Alors, c'est en 1945, Duchamp rencontre un galeriste qui était un de ses amis de New York, qui s'appelle Julien Lévy. Et Julien Lévy lui dit qu'ils avaient fait avec Matta, ils s'étaient promenés dans les pissotières de New York, on ne dit pas pissotières à New York, évidemment, et qu'ils avaient vu des graffitis formidables. Et à ce moment-là, Duchamp dit, voilà, j'ai une idée de pièce absolument géniale, on va faire une collection de graffitis de pissotières. Et alors, voilà comment il propose la pièce qu'il propose à Julien Lévy, je vous lis la chose. Évidemment, je pense que si j'ai pensé à cette pièce de Pornit et à la pissotière, etc., c'est parce qu'il y a quand même cet effet avec la modernité, on va dire, de désidéalisation des process, avec leur technicisation et cette idée du corps de l'artiste qui devient une espèce de matériau électrifié qui décharge des mécanismes de transmission électrique. Voilà, alors voilà comment Duchamp décrit cette pièce, et vous verrez qu'on est exactement dans notre processus de répétition, suspension, détournement, etc. Et donc, il suggère à Julien Lévy de réunir une collection de dessins et de textes figurant sur les murs de pissotières, et il propose d'appeler cette collection Pornit. Deux points. Sélectionner les meilleurs. Les photographier, les monter. Les refotographier, les agrandir. projeter l'agrandissement sur un mur de toilette, refotographier le tout, réduire une collection de ces murs composites à un microfilm unique, une anthologie de milliers, la prière du diable sur la tête d'une épingle, donner les négatifs du microfilm pour agrandissement partiel ou total, à tout degré d'amplification, pour les toilettes de la maison. Voilà. Donc, voilà la proposition de Duchamp, qui me semble être une illustration absolument parfaite, du processus que j'ai essayé en fait d'introduire à partir du jugement chez Kant. Voilà. Donc moi je m'arrête là à cette idée que finalement assez rapidement on n'a plus besoin de brancher imaginairement le regard sur une centrale électrique. Il suffit en fait d'employer un appareil photographique qui prend le relais de la transmission électrique et je m'arrête et j'écoute évidemment vos questions.
On arrive à voir dans la maison.
Et exactement, et on arrive à voir.
Voilà, un peu rapidement. Voilà. Oui.
Mais, moi j'ai une petite question. Est-ce que la mémoire c'est l'éthos?
Alors, est-ce que la mémoire c'est l'éthos?
Alors, évidemment, une des traductions possibles d'éthos c'est habitude. C'est d'ailleurs comme ça que le traduit Marcel Mauss. Il traduit l'éthos comme. Et il fait référence à Kant. Il fait référence à la critique de la raison pratique et il parle d'habitude. Et donc, évidemment, avec l'habitude, on est tout près de la mémoire. Chez Aristote, ça n'est pas explicitement lié à la mémoire. La répétition de l'affect subi en affect choisi n'est pas directement articulé à la mémoire. Moi, je dirais que chez Aristote, il y a une conception, de l'action qui néanmoins est très très articulée à la mémoire. Comme vous savez, la vraie action, la véritable action, est toujours la réactivation d'un mythe. Alors ça, j'ai pas le temps de repartir là-dedans, mais moi je crois que c'est pas, je suis pas capable aussi un peu sans doute parce que je suis un tout petit peu, disons, dans mon sujet d'aujourd'hui, trop pour être capable de m'arracher tout de suite et de vous dire ça clairement. Mais je pense que dans l'éthos, comme métabolisation d'un affect subi en affect choisi, ce qui permet cette métabolisation, c'est une mimétisation, et la mimétisation passe toujours par la convocation d'un mythe, d'une image mythique, et donc par une mémoire. Donc, si on va très vite, de la répétition éthique à l'immimétisation et de la mimétisation à la convocation d'un mythe, ces trois éléments étant nécessaires pour définir ce qui est véritablement une action chez Aristote, c'est-à-dire un mutos, on a effectivement quelque chose qui a à voir avec la mémoire. Ensuite, moi j'ai du mal à parler de l'éthos de manière générale. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que, évidemment, dans les techniques du corps, chez Marcel Mauss, on est en plein dans une problématique de la mémoire et de la tradition. Donc là encore, on est bien dans une problématique de la mémoire. Mais j'ai du mal, c'est pour ça que je le réfère toujours très précisément à un auteur de ce concept d'éthos, parce qu'il a tellement navigué dans l'histoire que si on l'emploie comme ça un peu à vide, on ne sait pas du tout de quoi on parle. Voilà. Ce que je peux vous dire, c'est que, évidemment, Mauss, lorsqu'il emploie le mot d'éthos, il se réfère immédiatement et à Aristote et à Kant. Donc il y a évidemment un rapport entre tout ça. Et quand Foucault, dans le texte sur Kant, parle d'éthos, c'est évidemment en grec, c'est évidemment en faisant référence à Aristote.
Évidemment, je pourrais vous dire qu'il y a ces fameux hypomnématas cadiens qui renvoient à la mémoire et aux arts de la mémoire. Donc vous voyez qu'on est dans une constellation qui a une certaine consistance.
Parce qu'en fait, moi, tout simplement, je me disais, l'éthos, c'est quelque chose qui a une origine, qui est sociale. Et à ce moment-là, la mémoire, ça serait aussi quelque chose qui est configuré socialement et qui, en fait, nous conduirait à poser cette question de comment est-ce qu'on va disjoindre la technique de la pratique. Puisque si la mémoire, c'est cet éthos, quand je reproduis, quand je change de support, est-ce que je ne fais que photographier comme n'importe quel touriste, ou est-ce que je fais des images, c'est un peu ça le problème.
C'est distinct de la technique de la pratique. C'est-à-dire que l'imagination, pour reprendre le terme de Baudelaire, ou le jugement, pour reprendre le terme de Kant, c'est bien des figures de la répétition, fondées sur la répétition. Et cette répétition, elle doit finalement, pour s'accomplir en jugement, hein, pour donner lieu à jugement, c'est-à-dire pour n'être pas simplement une reprise, une répétition ou une reproduction, mais être en plus une suspension et un détournement, elle doit effectivement faire entrer une opération de mémorisation. Qu'est-ce qui permet le détournement, sinon la mémoire, hein, sinon une construction mémorielle? Sinon, on a affaire qu'à de la reproduction. Finalement, qu'est-ce qui fait qu'un artiste, très concrètement, répétant un même acte sur un médium différent, opère un détournement? C'est tout simplement que ce médium, c'est une mémoire vivante, et qu'il branche un geste qui a priori est neutre, hein, ou qui est chargé éventuellement d'une certaine mémoire, de la mémoire de sa propre pratique, sur une mémoire vivante qui est dans le médium. C'est-à-dire que si, par exemple, vous faites un dessin sur une feuille de papier, et si ensuite vous transposez cette esquisse dessinée en tableau, c'est pas simplement le fait que vous utilisez un pinceau qui change, hein, que vous avez un autre format, etc. Hein, mais c'est surtout, ou que vous employez une technique, ce qui est important, c'est que tout d'un coup, vous traitez avec toute la mémoire de la peinture. Vous voyez ce que je veux dire? Et que vous, quand vous dessinez, vous traitez avec la mémoire du dessin. Hein, c'est-à-dire que vous agissez dans un médium qui est une mémoire. Mais si ce dessin, vous le transposez en tableau, là, vous articulez toute la mémoire sédimentée dans le moindre des gestes du peintre, qui est toute une mémoire de l'histoire de la peinture. Et donc, vous activez une nouvelle mémoire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que dans la répétition artistique, hein, mais pas seulement dans la répétition artistique, mais notamment dans la répétition artistique, parce que le médium est aussi consistant, vous voyez ce que je veux dire? Il est sédimenté historiquement. De manière extrêmement précise et articulée, etc. Évidemment, ça implique de la mémoire énormément. Vous comprenez? Et je pense que dans la musique, c'est pareil. C'est-à-dire que quand vous passez vous passez d'une sonate à une symphonie, par exemple. Hein. C'est une bêtise, parce que ça n'a pas de sens de passer d'une sonate à une symphonie. Et vous passez d'une petite forme à une grande forme. Ou d'un type de formation, d'une petite formation à une grosse formation. Ben, ça veut dire que vous avez à vous confronter, même si vous répétez la même chose, vous avez à vous confronter à une certaine mémoire de cette formation, et que vous n'allez pas traiter avec un orchestre de 40 instruments comme vous traitez avec un trio, par exemple. Et que là, du coup, vous portez tout un monde, et qu'il faut entièrement... et que du coup, ce que vous faites est branché sur un monde. Alors évidemment, ça peut ignorer ça. Si on ignore ça, évidemment, j'allais dire, c'est de la photographie bête, hein, c'est des clichés. Mais si on se laisse porter par cette mémoire du médium, hein, et si on en est conscient, hein, de cette épaisseur qui va entraîner finalement la répétition elle-même, bah, c'est du détournement. C'est-à-dire, ça donne autre chose. Voilà. Et c'est un jugement, c'est une forme de jugement.
Oui, maintenant c'est là, ok. C'était juste un truc, quand Marie est sortie, elle a parlé de Warhol, qui était un peu par déduction, qui venait par déduction d'après vos propos. Et je pense que, tout en pensant à ce que vous disiez de l'artiste comme comme une espèce de dispositif de transmission par impulsion, par électricité. J'ai pensé non pas au robot, mais j'ai pensé à l'écriture automatique et aux avant-gardes. Ce qui débloque un peu Baudelaire comme théoricien du formalisme.
À vous lire un texte et puis malheureusement au dernier moment je retrouvais plus mon livre dans la bibliothèque. Sinon je voulais vous lire, j'aurais pas lu les histoires des formes que j'aime bien, mais j'en avais un texte mieux qui était un texte de Michaud sur le moment où Michaud passe de la poésie à la peinture. Hein, comme vous savez, à ce moment de la vie de Michaud, il abandonne pas la poésie, mais il quitte le territoire de la poésie, il passe au territoire de la peinture, et il va théoriser ce passage. Il dit déplacement. Hein, il a théorisé ce qu'il appelle son déplacement. Et il décrit effectivement comment il est passé de l'écriture au dessin. Voilà. Et c'est au fond, et en termes de vitesse, de rythme, et comment effectivement il passe d'un médium à un autre, tout en disant donc c'est la même chose d'une certaine façon. Il fait la même chose, mais il change de support, il change de médium, et du coup sa pratique va être articulée sur tout à fait un outil de mémoire qui va l'émanciper finalement. De la représentation, mais effectivement, vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire qu'on passe là à des pratiques qui sont de l'ordre de l'automatique. Baudelaire, il suffit de dire Baudelaire pour voir que le Baudelaire formaliste est une plaisanterie, que c'est un texte qui est absolument traversé d'une énergie performative énorme. Bonsoir. Ah oui, absolument.
Vraiment, on a besoin de la salle, évidemment.
Oui, je vous promets que je m'arrête. Je ne savais pas que la salle. Il est 29. Voilà. Donc on a effectivement, derrière cette lecture que je propose de Baudelaire, de la théorie de l'imagination à partir de la théorie du dandy, très étroitement à la lecture que c'est du Dandy, moi une vision de Baudelaire qui n'est pas du tout formaliste. Je crois qu'on n'a pas intérêt à se faire mal voir de dire calme, on va partir très très vite. On se dit donc à vendredi prochain, 14h30, on ne bouge rien. D'accord ? Voilà.